Le Maghreb décrypté avec Hasnia Abidi.
Bienvenue à tous, un nouvel épisode du Maghreb décrypté avec vous, Nadia Bencher. Au Mali, la crise a franchi un nouveau seuil, la reprise de Kidal par les rebelles, l'alliance affichée entre groupes djihadistes et rébellion de l'Azawad, et les incertitudes autour de la junte ouvrent une séquence particulièrement dangereuse. Mais cette crise ne concerne pas seulement Bamako, elle parle aussi du Maghreb, parce que le Sahel est désormais un enjeu de sécurité directe pour l'Afrique du Nord, pour la L'Algérie, c'est une menace directe à sa frontière sud dans un contexte déjà très tendu avec la junte malienne. Pour le Maroc, qui s'est rapproché de Bamako, c'est aussi un test politique et stratégique. Autrement dit, ce qui se joue au Mali déborde désormais très largement le Mali. On en parle avec vous, Hasnia Abidi. Merci d'être au rendez-vous comme chaque semaine.
Merci Nadia Bencher.
Vous êtes spécialiste du monde arabe et dirigez le CERMAM à Genève, le Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Hasnia Abidi, avant même de parler du Maghreb, il faut peut-être prendre la mesure de ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que ce que l'on voit aujourd'hui au Mali marque, selon vous, une rupture réelle dans la crise malienne ?
Il est très tôt pour parler d'une rupture, mais c'est un fait majeur. La junte militaire a brandi finalement la question de Kidal, la libération de Kidal qui était aux mains bien sûr des groupes rebelles, comme finalement la volonté des autorités maliennes de l'unicité d'abord de ce pays donc et aussi le contrôle de tout le territoire. Perdre Kidal, c'est une mauvaise nouvelle à la fois par les nouvelles autorités, mais ça donne aussi l'occasion pour tous les mouvements, en tout cas, que ce soit les mouvements djihadistes, hein, le front de Al-Nusra, ou la coordination des Azawad, mouvement Touareg, de considérer Kidal comme une nouvelle capitale. C'est l'enjeu majeur aujourd'hui, d'autant plus que les Russes, finalement, ont eux aussi conclu un accord avec ces deux groupes pour quitter leur base militaire dans cette région.
On peut dire que la junte fait face à son moment le plus critique depuis 2020.
Oui, vous avez raison, c'est exactement. C'est la première épreuve sur le plan militaire et sur le plan politique. Pour la junte militaire, c'est vrai qu'elle s'est coupée un petit peu du monde aussi, cette junte militaire. S'est coupée d'abord des pays européens, de la France qui étaient les premiers contributeurs sur le plan financier et économique. S'est coupée des Nations Unies parce que Kidal abritait les forces des Nations Unies au Mali, les a remplacées par les Russes et ça passe mal au prix à la fois des Américains qui ont gardé leur ambassade à Bamako, mais aussi elle s'est coupée des Européens et notamment les Français. Elle s'est coupée de l'Algérie aussi qui partage plus de 1700 km avec le Mali, qui a toujours été un soutien, bien sûr, de ce qu'on appelle les accords d'Alger.
Ce qui inquiète beaucoup, c'est cette alliance désormais assumée entre la rébellion de l'Azawad et les groupes djihadistes. Est-ce que c'est une alliance de circonstances ou quelque chose de plus profond ?
Non, c'est une alliance conjoncturelle. Je ne suis pas persuadé que finalement cette opération militaire d'envergure, c'est vrai, s'attaquer à plusieurs villes en même temps et des villes qui abritent des cargaisons militaires importantes, y compris les Russes, démontre finalement qu'il y a une coordination de longue date entre les deux mouvements. Mais tout les sépare sur le plan idéologique. Entre l'Azawad, c'est vrai que l'Azawad, il a une tendance plutôt séparatiste. Hein, il veut absolument que le Nord soit indépendant, autonome, puisqu'il y a un grand échec économique et social pour intégrer le Nord dans ce projet de développement. Et le front Al-Nusra, il est affilié à Al-Qaïda. C'est un projet djihadiste global, certes avec un contexte du Mali, mais il n'a pas vraiment une convergence. La seule convergence qu'il partage avec les Azawad, c'est bien entendu, c'est leur animosité, c'est leur conflit avec les nouvelles autorités maliennes.
Alors, dès lors que cette alliance s'est consolidée, on le voit bien, la crise malienne cesse d'être une affaire strictement intérieure, parce que le Sahel est la profondeur sécuritaire de l'Afrique du Nord. Est-ce qu'il faut dire aujourd'hui que ce qui se joue au Mali concerne directement le Maghreb et d'abord l'Algérie ?
Ah oui, l'Algérie a tout de suite communiqué en disant qu'elle tenait à l'unité de territoire malien, l'intégrité territoriale malienne et le refus, bien sûr, de s'attaquer aux civils et le refus de terrorisme. L'Algérie, c'est vrai qu'elle est passée par ce terrorisme. Donc, il est illusoire de croire que l'Algérie applaudissait, en quelque sorte, cette victoire du mouvement affilié à Al-Qaïda au Mali. Certes, l'Algérie voulait vraiment ces accords de paix de Bamako, les accords d'Alger, mais les relations sont plus que tendues. C'est même une dynamique conflictuelle un peu limitée et avec une certaine retenue entre Bamako et Alger. L'Algérie, oui, parce qu'elle est plus exposée que, par exemple, le Maroc, qui n'a pas de frontière directe avec le Mali, mais parce qu'aussi l'Algérie, si vous avez remarqué, elle a commencé un petit peu, elle a invité des responsables, des présidents du Niger, mais aussi les relations avec le Tchad s'améliorent, et aussi le Burkina Faso. Donc ce qui est resté pour l'Algérie, dans la région du Sahel, c'est plutôt une bonne relation avec le Mali. Mais on peut dire que le Maghreb, d'une manière générale, parce que ce qui affecte l'Algérie affectera aussi le Maroc. Le Maroc a lancé cette initiative pour l'accès à l'Atlantique et elle concerne aussi le Mali. Et donc le Maroc n'a pas aussi intérêt à voir aussi le Mali dans cette situation d'éclatement.
Alors, vous avez parlé de l'accord d'Alger de 2015 qui a été enterré et la junte qui accuse désormais l'Algérie de proximité avec certains groupes du Nord. Est-ce que cette rupture politique entre Bamako et Alger aggrave encore un peu plus la crise ?
Oui, bien sûr. C'est un élément qui a renforcé finalement non seulement la méfiance entre les deux capitales, mais aussi a privé Bamako d'un soutien important de l'Algérie. Les autorités maliennes voulaient absolument reprendre Kidal. Pour les nouvelles autorités maliennes, le soutien de l'Algérie à Cheikh Deko, qui est un imam, un chef religieux très important, y écouté par les Maliens, est une ingérence dans les affaires intérieures. Les Algériens répondent pour dire que pour eux, la stabilité de Mali passe par des accords justement d'Alger, par la participation du Nord dans le projet de développement économique. On est arrivé finalement à un point de non-retour entre les deux capitales. Les Américains, hier, ils ont fait un communiqué où ils insistent justement sur l'intégration du Nord dans les préoccupations. Donc je pense que l'Algérie, elle n'est pas la seule à dire qu'il y a un échec de projet économique et social portée par la junte militaire qui, jusqu'à maintenant, elle a réussi peut-être à se sanctuariser avec cet accord avec les Russes, avec les brigades militaires qui ont remplacé Wagner. Mais ce qui concerne le projet économique, développement en quelque sorte de toutes les régions maliennes, aujourd'hui la situation est de plus en plus grave au Mali.
Alors, pendant que Alger se heurte à Bamako, un autre acteur maghrébin, vous l'avez cité tout à l'heure, lui a choisi un tout autre chemin. Le Maroc s'est nettement rapproché du Mali ces derniers mois. Est-ce que cette crise vient aussi tester cette nouvelle proximité entre Rabat et Bamako ?
Oui, alors bien sûr que les autorités maliennes ont annoncé la semaine dernière une décision importante, celle donc de retrait de la reconnaissance de la RAS, donc la République arabe saoudite démocratique, et du Front Polisario. C'est une décision, bien sûr, qui a été bien accueillie par Rabat. Du coup, Rabat a aussi pris une décision importante, celle de dispenser tous les citoyens maliens de la demande d'un visa électronique, mais aussi par des projets économiques. Et on sait que les Marocains ont atteint un niveau très élevé en matière, par exemple, de la présence des banques africaines, des projets économiques. Et le Mali a besoin justement de cette bouée de sauvetage. Ce qui s'est passé samedi matin, oui, c'est une épreuve. D'abord pour cette nouvelle alliance, on peut dire que les autorités maliennes ont choisi plutôt de se rapprocher de Rabat au détriment d'Alger. Maintenant, les autorités marocaines attendent un peu après la mort du ministre de la Défense. Quel est l'avenir finalement de ce conseil militaire qui dirige le Mali pour pouvoir évaluer et continuer ce rapprochement entre les deux capitales?
Peut-on dire que Bamako cherche aussi à travers Rabat un autre appui régional?
Oui, bien sûr, le pays est isolé. Il est isolé sur le plan européen. Mais on a bien vu cette crise de samedi a révélé finalement que même ce qu'on appelle cette alliance, l'alliance de Sahel, hormis quelques communiqués, n'a pas aidé les autorités maliennes. Pire que ça, c'est-à-dire la junte militaire a bien remarqué que même les Russes, finalement, ont préféré plutôt se retirer que de soutenir le conseil militaire. Il est dans l'intérêt des autorités maliennes, c'est leur calcul, c'est de chercher de nouveaux partenaires. On parle de la Turquie, qui aussi, par une société privée de sécurité, qui assure la sécurité du président, de chef de la junte militaire au Mali, et aussi le Maroc surtout, le besoin, non seulement parce que le Maroc est quand même une puissance régionale, mais aussi sur le plan économique, sur le plan diplomatique, c'est bien entendu pour compenser un petit peu la rupture des relations avec l'Algérie.
Voilà qui nous ramène à la question la plus large, peut-être la plus inquiétante. Si le Mali s'enfonce davantage, qu'est-ce que cela peut produire pour le Maghreb?
Il ne faut pas se réjouir de ce qui s'est passé de ce samedi, parce que cette alliance inédite entre la coordination des Azawades et aussi le Front Nusra, elle est porteuse de risques, risques très importants. On peut dire que ce n'est pas la première fois.
Un risque de contagion régional.
Un risque de contagion pour les autres pays, pour le Niger, qui ne sont pas si solides que ça, pour le Burkina Faso et même au-delà. Certes, chaque pays a un contexte local qui dicte finalement des nouvelles alliances, mais c'est un message envoyé aux autres pays, c'est-à-dire pour la réelle prise en charge des doléances et des préoccupations économiques et sociales locales. Le Mali, c'est un contexte qui est à mon avis exceptionnel, mais c'est surtout ce qui est important, c'est que ces alliances, ou j'allais dire, c'est la mobilisation des acteurs que tout sépare finalement, mais s'unissent juste pour abattre un régime, pour arriver à la capitale, parce que vous savez, celui qui contrôle la capitale contrôle le pouvoir politique. C'est un précédent qui est fâcheux pour les autres pays qui sont très fragiles en matière de sécurité. C'est des grands espaces où il est très difficile pour le pouvoir central d'assurer la sécurité de tout le pays.
Pour finir, Hasni Abidi, est-ce que le Maghreb est aujourd'hui prêt à faire face à ce scénario?
Non, le Maghreb, il a d'autres préoccupations. On a parlé d'abord des conséquences de la guerre en Iran, des conséquences économiques très importantes. Il y a une fragilité aussi dans tous les pays du Maghreb suite un peu à cette guerre sur le plan économique, mais aussi sur le plan sécuritaire. Les dépenses militaires augmentent. Il y a aussi une crise économique. On voit bien que l'inflation aussi augmente dans ces pays. Et une crise comme celle du Mali est probablement, s'il y a ce risque de contagion, va encore mobiliser. Il y a la question, bien sûr, des flux migratoires. On sait très bien. Un pays comme la Libye, la Tunisie font face à ces flux migratoires. Le Maroc aussi essaie de les retenir, l'Algérie aussi. Donc à la fois le risque humain, donc des flux migratoires, mais aussi l'augmentation des dépenses militaires, ce sont des défis supplémentaires pour les États du Maghreb. Oui, le Sahel est un enjeu crucial pour l'Afrique du Nord.
Merci Hasni Abidi d'avoir été avec nous.
Merci à vous, Nadia Benchir.
Je précise que vous êtes spécialiste du monde arabe et dirigez le Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève, en Suisse. Cet épisode est disponible en podcast sur notre site et Spotify. Merci de nous suivre et à la semaine prochaine.
Le Maghreb décrypté avec Hasni Abidi.